C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne voilez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la vie de sa vie, à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Jean 2, peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Si vous avez compris cette parole, je peux retourner là-bas. c'est un message très clair. On n'a pas vraiment besoin de commentaires pour bien comprendre. Le livre de Matthieu, c'est un livre intéressant parce que c'est Matthieu qui a écrit en pensant aux Juifs, pour pouvoir convertir les Juifs. Et nous voyons que c'est un livre, ce verset que je viens de choisir, ça se trouve dans le sermon sur la montagne. C'est quoi le sermon sur la montagne? C'est un sermon que le Seigneur a apporté et que Matthieu a décrit sur trois chapitres, 5, 6, 7 chapitres, et qui raconte la vie des enfants de Dieu dans le royaume de Dieu. Et donc c'est simple de ce que... c'est une parole que nous devrions respecter en vivant sur cette terre, mais aussi dans le royaume de Dieu. Matthieu a l'habitude d'écrire de cette manière-là. Pourquoi? Parce que, il vise les Juifs. Il vise les Juifs à les convaincre. Et c'est pour ça que, parfois, quand il écrit des miracles de Jésus, il écrit des miracles en bloc par thème. C'est comme ça que, les Juifs avaient l'habitude de prêcher. Et après, quand il parle des paraboles sur le royaume des cieux, il parle la même parabole avec les mêmes leçons, plusieurs fois d'affilée, avec différentes paraboles. De même aussi, vers la fin, avec plusieurs, les mêmes notions sur la fin des temps. Donc ça, c'est vraiment la méthode d'enseignement des Juifs. Et c'est ce que Matthieu a fait aussi pour parler différents thèmes. Là, dans ce sermon sur la montagne, il a voulu vraiment nous enseigner, ou plus enseigner non, bien sûr aussi les Juifs, mais aussi à nous tous, pour que nous puissions comprendre l'essentiel. Que ce n'est pas la peine de s'inquiéter pour rien. Ce message m'a beaucoup fait du bien, parce que dernièrement, je me suis beaucoup inquiété. J'étais dans l'inquiétude régulièrement et très souvent. Et c'est pour ça peut-être que je suis tombé malade, et c'est pour ça peut-être que je ne me sentais pas très très bien. Alors, il y avait de quoi s'inquiéter. Vous savez très bien que dans un an, je pars à Taverny, et que l'Église attend que je vienne. Ça veut dire aussi que je dois vendre l'appartement, je dois faire des travaux, je dois acheter là-bas, un autre appartement. J'avais aussi plein de changements dans ma vie. Mes filles qui font les études maintenant à Strasbourg et à Paris, on n'a plus d'enfants à la maison. Ça change tout. C'est une nouvelle vie, je ne sais pas comment gérer cette situation. Je suis un peu confus. Les enfants que j'adorais, j'aimais tant, ne sont plus là. Je ne les vois plus. C'est un choc. C'est vrai que Sarah était déjà partie, mais voilà, c'est quand même différent. Il y avait encore la petite dernière qui était là. Et puis, tout à coup, voilà, on se retrouve tout seul, comme un vieux couple. Et puis, voilà, j'avais aussi entendu pas mal de mauvaises nouvelles par-ci, par-là. Ça m'a aussi apporté plein d'inquiétudes. Ah, Seigneur, mais... Et puis, j'étais dans l'inquiétude. Vous savez, quand les inquiétudes deviennent excessives, elles entraînent aussi énervement, fatigue, déprime. Et Satan aime nous voir déprimés ainsi, afin que nous n'agissions pas. Et ça inclut aussi l'inactivité. Voilà. C'est pour ça que cette parole de Matthieu 6 m'a fait du bien. Parce que le Seigneur nous parle plusieurs fois. Il y a une certaine répétition en disant, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez point, ne vous inquiétez point. Plusieurs fois. En 10 versets, il parle 6 fois. Ne vous inquiétez point. En tout cas, à travers ce verset, Dieu m'a révélé vraiment sa pensée. En fait, c'est une prédication pour moi, c'est pas pour vous. Mais je pense que ça pourrait aussi vous enrichir, cette parole que j'ai reçue du Seigneur. Ça m'a rappelé un peu cette histoire d'un pasteur dont la femme s'inquiétait chaque soir à propos des voleurs. Cette femme s'inquiétait qu'un voleur vient s'introduire. Et le pasteur lui disait, mais il ne faut pas s'inquiéter pour rien. Parce que les inquiétudes, souvent, ne se réalisent pas. Et puis, d'ailleurs, une étude, je ne sais pas comment ils ont fait cette étude, mais une étude a montré que 90% des inquiétudes que nous faisons n'arrivent jamais. Je ne sais pas comment ils ont fait. Pourtant, voilà, nous nous inquiétons. Surtout des choses inutiles aussi. Je reviens encore à cette histoire du pasteur et la femme qui s'inquiétaient tout le temps pour le voleur. Après 10 ans de mariage, un vrai voleur est effectivement arrivé. Il tentait de pénétrer dans la maison et puis il a remarqué le mari qui était éveillé. Alors il s'est enfui. Le mari, remarquant le voleur s'enfuir, il le pourchassait en lui disant « Attends, ma femme t'attend depuis 10 ans. » On s'inquiète vraiment pour rien. La plupart des inquiétudes sont inutiles. Dieu, en fait, à travers le Matthieu 6, nous appelle à la confiance, à la vigilance, mais sans anxiété. Même si parfois les situations sont difficiles et parfois réelles, voilà, vivre dans l'angoisse constante n'est pas du tout la volonté de Dieu. Oui, c'est pas la peine de rester dans l'angoisse, puisque Dieu aussi peut transformer la situation, les circonstances. Alors, dans ces versets qu'on vient de lire ce matin, il y a pas mal de domaines d'inquiétude que Dieu nous adresse d'abord. D'abord, j'aimerais vous lire verset 25. Il est dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Voilà, on s'inquiète pour les choses, les besoins essentiels. De quoi manger, de quoi se vêtir. Mais dans ce pays, en France, je n'ai pas vu des gens mourir de faim. Voilà. Et alors pourquoi on s'inquiète? Parce qu'on veut bien manger. Mieux. On veut mieux se vêtir. On veut avoir plus, etc. Et puis, voilà, on veut avoir plus de bonnes choses. Parfois aussi, on se compare par rapport aux autres. Ils ont ça, et puis moi, j'ai pas ça. Mais moi, pourquoi je me suis inquiété? J'ai réfléchi suite à ça. C'est vrai que je veux J'aimerais une meilleure chose pour ma prochaine destination. C'est-à-dire, voilà, je vais vendre ma maison, enfin mon appartement. Et puis vous savez que l'appartement avant d'œuvre, c'est pas très cher. Et là-bas, dans la région parisienne, c'est très cher. Deux fois plus. Et je me suis dit, mais moi j'aimerais avoir quand même un endroit où je peux accueillir les gens de l'église. Maintenant que les enfants ne seront plus là, je veux bien les accueillir à la maison un peu plus, avoir plus de réunions à la maison, etc. Et j'ai pensé, voilà, une maison avec une séparation avec les chambres et les salons, et j'ai pensé. Si on n'a pas les moyens, on peut faire autrement. On peut se réunir à l'église. Pourquoi s'inquiéter pour des choses qu'on ne pourrait pas avoir? Enfin, si, peut-être. Enfin, bref. Je me suis dit, voilà, il faut faire ceci, il faut défaire des choses, et puis pour rassembler la somme maximum possible pour pouvoir acheter une maison. Mais après, pendant 20 ans, on va souffrir d'endettement. Pourquoi s'inquiéter? Parce qu'on veut... Et puis, deuxième chose, on s'inquiète aussi pour les apparences. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Oui. Jésus nous appelle vraiment ici à nous libérer de l'obsession d'avoir toujours plus, d'être toujours à la mode, bien s'habiller, ou encore de nous comparer aux autres. Il nous invite en tout cas à retrouver la simplicité, à faire confiance à sa providence aussi. Puis peut-être, surtout aussi, troisième sujet d'inquiétude, c'est l'inquiétude pour l'avenir, pour le demain. Jésus donc nous dit au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Alors, on connaît bien cette parole, hein, à chaque jour suffit sa peine. Et même, ça existe dans l'expression française. L'avenir est souvent la source de paralysie. Mais s'inquiéter pour demain, c'est vouloir porter le fardeau de deux jours à la fois, ou même plusieurs jours à la fois. Jésus nous invite vraiment à vivre dans le présent, à nous concentrer sur la tâche du jour. La grâce est suffisante pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Ces inquiétudes peuvent devenir des chaînes qui étouffent la joie de vivre pour le Seigneur, et nous empêchent aussi d'avancer dans la foi. Et je vous avoue que des dernières semaines, j'étais vraiment dans les inquiétudes. Je regardais... C'est quoi ça, le site location.com, non, seloger.com, un truc comme ça, hein, en disant, ouais, est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose là-bas? Mais Jésus nous invite à changer notre centre de gravité, c'est-à-dire, il aimerait qu'on entende sa voix. D'abord, la première voix qu'il dit, c'est j'aimerais vous présenter dans Matthieu 6, verset 32, où il est dit, pardon, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voilà, amen. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est une déclaration rassurante de Jésus. Jésus ne nie pas nos besoins réels, manger, boire, se vêtir et puis être en sécurité. Mais il rappelle une vérité fondamentale. Dieu sait tout. Et rappelons-nous que ce Dieu d'amour n'est pas un Dieu indifférent. Il n'est pas un Dieu lointain. Au contraire, il veut être près de nous. Et c'est un Père qui connaît nos besoins mieux que quiconque, même, je dirais, mieux que nous-mêmes. Donc, maintenant, j'aimerais vous inviter à penser et à imaginer vos inquiétudes. Quel sujet qui vous embête en ce moment? Qu'est-ce que vous avez, c'était quoi vos inquiétudes du moment? Imaginez maintenant, pensez toutes ces inquiétudes qui vous pèsent sur votre cœur. Et puis maintenant, imaginez que maintenant, Dieu vous parle avec cette phrase. Mon enfant, je sais ce dont tu as besoin. Imaginez que Dieu vous parle réellement. Mon enfant, ne t'inquiète pas. Je sais ce dont tu as besoin. Oui, moi j'ai reçu cette parole. Le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas. Je sais ce dont tu as besoin. Ce que tu auras aussi besoin. En tout cas, si vous le croyez vraiment à cette parole, l'inquiétude peut commencer à s'alléger. D'ailleurs, cette parole ressemble, complète bien avec la parole de Philippiens 4, 6, où il est dit que « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Oui, cette parole de Dieu nous invite vraiment à les apporter, nos soucis, nos inquiétudes, nos fardeaux devant le Seigneur. Alors, on vient de dire que Dieu sait tout. Mais pourquoi apporter? Parce que c'est aussi important de redire, d'implorer, de prier, échanger. Seigneur, tu sais tout, je sais, mais je choisis en t'apportant mon fardeau de te faire confiance. Et ce qui est encore formidable, dans Philippiens 4, 7, il est dit que après ceci, après avoir déposé tous nos fardeaux, même il est dit avec action de grâce, avec reconnaissance. Vous savez, la prière peut changer, transformer notre manière de penser. Dieu nous inspire. Et ensuite, après qu'on soit inspiré, le Seigneur donne ceci. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Peut-être que les circonstances peuvent rester identiques. Peut-être qu'il y a encore des problèmes à gérer. Mais le Seigneur transforme le cœur. Nous donne la joie, la paix qui surpasse tout entendement. Sachons que Dieu est un Dieu omniscient. Il connaît notre passé, notre présent et notre futur. Et ça nous rassure de savoir que Dieu sait tout. Et surtout, il sait de ce dont nous avons besoin. Donc chaque fois que l'inquiétude monte encore, parce que c'est humain d'avoir ce genre de réflexe, répétez cette promesse que mon Père Céleste sait ce dont j'ai besoin. Au lieu de laisser l'inquiétude voler la reconnaissance et la joie, transformez-la en prière et en action de grâce. Peut-être que vous pourriez commencer la prière avec un certain sentiment d'inquiétude, mais plus vous entrez en profondeur dans cette prière, là, le Seigneur change nos cœurs, transforme notre attitude. Deuxième solution, ou plutôt la voix, deuxième voix que nous devrions entendre, c'est dans verset 30, où le Seigneur dit, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Gens de peu de foi. Pourquoi s'inquiéter? Regardez la nature, le Seigneur gère. Regardez les oiseaux. Ils n'ont pas travaillé, mais ils peuvent vivre, et même très bien vivre. Regardez toutes ces fleurs. Ils ont été bien habillés, parce que le Seigneur prend soin d'eux. Donc nous, qui sommes beaucoup plus précieuses que tous ces éléments, comment Dieu ne fera-t-il pas des choses pour vous, pour nous? Jean 2, peu de foi. C'est marrant de dire Jean 2, peu de foi. Ça veut dire qu'il nous invite à avoir plus de foi. Jean 2, peu de foi. Dans Matthieu, Jean 2, peu de foi est apparu 4 fois. Est-ce que vous vous rappelez un épisode où peut-être que Jésus a dit Jean 2, peu de foi? Hein? Ah oui, après, ça c'est après la multiplication. Après la multiplication, effectivement, Après la multiplication des pains, les Sadducéens, les pharisiens viennent dire des choses. Et ensuite, ils embarquent dans la barque, et puis les disciples, enfin Jésus leur prévient en disant que « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des Sadducéens. » En entendant ces paroles, les disciples réfléchissent et ils se disent « Ah ben parce qu'on a oublié, parce que Jésus vient de réaliser des miracles en nourrissant 4000 hommes. Et encore avant, il avait aussi nourri 5000 hommes. Donc énormément de personnes en réalisant des miracles. Et là, ils se disent « Ah parce qu'on n'a pas pris le reste du pain. » Sûrement que Jésus nous dit ça. Mais en fait, Jésus leur dit, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Et comment vous pourriez penser de cette manière-là? Jean de peu de foi, c'est à ce moment-là que dit Jean de peu de foi. Pourquoi vous ne réalisez pas que les miracles que j'ai déjà réalisés dans le passé, j'ai nourri tellement de personnes, miraculeusement, et là, maintenant vous vous inquiétez? Alors que j'ai parlé de « gardez-vous avec soin de levain des pharisiens », là vous pensez complètement autre chose. D'autres événements? C'est ça, la tempête. Oui, la tempête. Les disciples, voilà, sont paniqués parce qu'ils sont dans la tempête et puis Jésus dort dans la barque. Et Jésus, les disciples le réveillent pour dire « Seigneur, Seigneur, aide-nous ». Et puis le Seigneur les reprend en disant « Pourquoi avez-vous peur ?» Jean 2, peu de foi. C'est une sorte de critique. Mais cela, leur peur montre qu'ils n'ont pas encore compris que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a autorité sur la nature. Ils ne comprenaient pas encore exactement qui il était. C'est pour ça qu'ils manquaient de foi. Et donc Jean 2, peu de foi. Et puis l'autre épisode, c'est quand Pierre marche sur l'eau. Pierre fait quelques pas sur l'eau et puis, en voyant le vent s'élever, les vagues, il commence à sombrer. Et Jésus lui dit, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà, donc il y a plusieurs événements. Et là, aujourd'hui, cet événement, où voilà, ne vêtira-t-il pas à plus forte raison? Jean de peu de foi, oui, le Seigneur nourrit tout le monde, prend soin de toutes ces choses, et pourquoi vous inquiétez? Jean de peu de foi. En résumé, oui, le Seigneur aimerait que nous ayons plus de foi, une foi plus fortifiée. En tout cas, Jésus, chaque fois que Jésus dit Jean de peu de foi, il ne rejette pas ses disciples, au contraire. Il les pousse à mûrir dans leur confiance et puis il les éduque à grandir. Jésus veut l'agrandir en tout cas. Et peut-être que cette parole pourrait aussi correspondre avec Matthieu 6, 33 où il est dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas en faisant rien, mais aussi en cherchant davantage le royaume et la justice de Dieu que le Seigneur prendra soin de nous tous. Amen. Troisième voix qu'on pourrait entendre, c'est dans Matthieu 6, 34. Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Autrement dit, Dieu nous demande de vivre un jour à la fois. Un jour à la fois. Chaque jour a son lot de défis et de grâces. Donc, trop regarder à demain, c'est perdre la force et la paix d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans Lamentation 3:23, il est dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Le Seigneur renouvelle ses bontés en notre faveur. Et si Dieu nous renouvelle sa grâce chaque jour, pourquoi porter déjà le poids du demain, aujourd'hui? On a tendance vraiment à s'inquiéter pour rien, pour l'avenir. Alors que ça veut dire, en fait, cela veut dire aussi qu'il y a un manque de confiance vis-à-vis du Seigneur. Et c'est ce que moi j'ai compris. Ah, peut-être que je fais pas assez de confiance à Dieu. Et je me suis repenti. Seigneur, pardon, parce que je me suis trop inquiété pour l'avenir. Oui, dans 1 Pierre 5, 7, il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Jésus prend soin de nous-mêmes et le Père prend soin vraiment chacun de nous, comme il a pris soin des oiseaux et des fleurs. En résumé, oui, l'inquiétude de demain nous vole la joie d'aujourd'hui. Vraiment, voilà, vivons dans la confiance au jour le jour et c'est marcher dans la paix en fait. C'est ainsi qu'on peut marcher dans la paix et dans la liberté que Jésus nous offre. J'aimerais conclure. Dans le chapitre 6 de Matthieu, voilà, je vous avais dit que je viens de vous lire 10 versets, et Jésus répète 6 fois la même exhortation, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ah, j'entends pas, amen. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas.
Amen.
Voilà. J'ai fait exactement pareil que Jésus, c'est-à-dire j'ai répété 6 fois. Et plus je répète, là, plus on s'adhère à cette phrase. Oui, cette insistance n'est pas un hasard. Jésus sait combien nos cœurs sont troublés en vivant sur cette terre par des préoccupations de la vie quotidienne. Mais en nous faisant répéter, ou plutôt en nous répétant cette phrase qui nous rassure, ne vous inquiétez pas, cette répétition sert en tout cas à ancrer profondément ce commandement dans notre esprit et à nous rappeler que l'inquiétude n'est pas une fatalité, mais un choix auquel nous pouvons résister par la foi. Nous pouvons résister par la foi. Jésus ne nous dit pas de nier nos besoins ou d'ignorer nos responsabilités, mais il nous appelle à un changement de perspective. Au lieu de porter seul le poids de nos soucis, il nous invite à remettre notre confiance entre les mains de Dieu. Ou peut-être si vous avez besoin encore d'autres aides, il y a encore d'autres frères et sœurs qui sont présents pour vous aider. Cette semaine, une sœur m'a exhorté avec une parole et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a fait énormément de bien. Je me dis, waouh, elle m'a parlé, on a lu ensemble un verset, ça m'a tellement parlé, c'est grâce à elle. Heureusement, voilà, nous avons des frères et sœurs qui nous encouragent, qui nous invitent à aller de l'avant. Oui, s'inquiéter ne change rien, au contraire, cela nous fatigue, nous enlève la paix. En attendant que nous puissions chercher d'abord le royaume et sa justice, et que nous puissions vraiment aussi apprendre à vivre un jour à la fois, dans la confiance. Oui, chaque jour a ses difficultés. Chaque jour aussi, on a aussi des préoccupations à gérer, mais Dieu nous fait grâce. Et voilà, ne laissons pas nos inquiétudes diriger nos vies, mais laissons plutôt notre Père Céleste prendre soin de nous. Sa paix est plus forte que nos peurs, sa fidélité est plus grande que nos besoins. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur,